Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, notre invité est David Storper, président du collectif Histoire et Mémoire, à l'occasion de l'inauguration à Nîmes d'un monument en hommage à Bernard Lazare. Bonsoir David.
Bonsoir Sandrine.
Dans cette émission, chaque semaine, nous accueillons des passeurs de mémoire, des intellectuels, des hommes et des femmes engagés qui travaillent à rendre intelligible notre histoire et à nourrir la conscience civique contemporaine. Ce soir, vous êtes avec nous pour évoquer un événement fort, la cérémonie de dévoilement du monument en hommage à Bernard Lazare qui aura lieu dimanche 14 décembre à Nîmes, au Jardin de la Fontaine, côté Bosquet. Vous nous expliquerez tout ça en présence de nombreuses personnalités civiles, politiques et culturelles. Vous êtes, on l'a dit, président du collectif Histoire et Mémoire et vous êtes l'un des principaux artisans de ce projet. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler en quelques phrases qui était Bernard Lazare ?
Alors Bernard Lazare, c'est le premier défenseur du capitaine Dreyfus. C'est un homme qui s'est levé pour des causes humaines et internationales, notamment sur l'Arménie, les persécutions faites aux Arméniens. Personne n'en avait parlé en France, c'est le premier. C'est un pionnier sur de nombreux sujets et c'est un devoir et une obligation essentielle que la statue de Bernard Lazare soit inaugurée la semaine prochaine à Nîmes.
Alors, on a parlé du collectif Histoire et Mémoire qui est à l'initiative de ce monument. Quelle est sa vocation exacte ? Qu'est-ce que ça veut dire être président de ce collectif ?
Alors, le collectif Histoire et Mémoire, sa nature, c'est de travailler sur la Seconde Guerre mondiale et la transmission aux jeunes générations de cette histoire. L'histoire de la statue de Bernard Lazare a une particularité, elle a été enlevée en 1942. Une particulière, somme toute pas tout à fait particulière, puisque c'est dans la droite file de l'histoire de l'antisémitisme en France, puisque cette statue avait été installée à la suite d'une affaire, l'affaire Dreyfus.
Alors pourquoi démanteler en 1942 simplement les lois de Vichy ?
Alors, pas tout à fait.
Non ?
C'est bien ça le problème. Cette statue était en pierre. Les lois de Vichy voulaient effectivement récupérer des matériaux. Celle-ci a été la cible de ligues antisémites depuis le début du XXe siècle. La statue a été... on lui a coupé le nez en 1909. En 1912, on a barbouillé la vérité. Donc,
un an après son installation, puisqu'elle a été installée en 1908, elle était déjà dégradée.
Oui, le 14 juillet. Voilà, c'est symbolique. On a voulu lui couper le nez. Ensuite, on a barbouillé la femme qui représente la vérité, la République. Et pendant cette période où on a démantelé la République, en 1942, la statue est enlevée, détruite. Et il ne restait plus qu'une simple plaque qui a été installée dans les années 60 pour rappeler cette infamie.
Alors, ce projet est né à partir de quand ? Pourquoi ? Comment avez-vous eu l'idée de nouveau de replacer cette statue et de la dévoiler ?
Alors, il y a eu de nombreuses tentatives, et en particulier celle de Jacques Lang, en 1984, de réinstaller un monument à cet emplacement. Ça a été lettre morte, et nous, on s'est levé il y a 2 ans et demi, parce qu'on a trouvé que c'était essentiel que cette statue soit reconstruite. On a fêté les 80 ans de la libération. Nous, pour les fans de Lazare, on estimait que réparation n'avait pas été faite totalement. Et nous, on est très fiers d'inaugurer ce monument avec les Français et les Nîmois.
Est-ce que c'était facile de mettre en place ce projet ? Est-ce que vous avez obtenu facilement des financements ? Est-ce que, au niveau de la statue, elle sera à l'identique de celle qui a été détruite ?
On avait une détermination d'acier. On avait un exemple, celui de Bernard Lazare. Lui, il avait un contexte qui était encore moins favorable et il a réussi à mobiliser la France entière pour une cause qui en valait la peine. Et tout le monde peut le dire aujourd'hui.
Alors justement, hein, vous l'avez dit, Bernard Lazare a été un acteur essentiel au moment de l'affaire Dreyfus. Il a été son premier défenseur, mais pourquoi on le connaît si peu et pourquoi une figure, par exemple, comme Zola l'a éclipsé? Est-ce que vous avez des réponses?
D'abord, il est mort jeune, à 38 ans. La deuxième chose, c'était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans la poche. Et médiatiquement, il savait qu'en prenant part à ce combat, il savait qu'il allait médiatiquement, comme journaliste, savourer, ça veut dire disparaître. Mais par contre, il a laissé des mots dans un journal, L'Aurore, où il dit qu'il est important que les gens sachent que c'est un juif qui s'est levé pour défendre un juif martyr en France. Ça n'a rien de... C'est beau qu'un juif ait pu défendre un autre juif en France. Mais allez, c'est beau aussi que vérité soit faite sur l'affaire Dreyfus. Bernard Lazare, c'est une figure emblématique de l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, il est éclipsé. Voilà.
Est-ce que l'inauguration de ce monument permettra et permet, hein, on le fait aujourd'hui, de le remettre un petit peu dans l'actualité? Juste par rapport à l'affaire Dreyfus, on dit souvent que trois intellectuels, Bernard Lazare, Edmond Fleg ou André Spire, ont redécouvert leur judaïsme en s'engageant dans la défense du procès du capitaine Dreyfus, il faut dire aujourd'hui général. Pourquoi Bernard Lazare n'était pas autant, est-ce que vous avez des réponses là aussi, engagé, n'avait pas une conscience juive avant cette affaire Dreyfus?
La conscience juive, lui, il a été un des premiers à travailler sur l'antisémitisme. Il a construit un livre qui s'appelle L'antisémitisme et ses causes, l'antisémitisme...
On retrouvera le titre, c'est pas grave.
L'antisémitisme, son histoire et ses causes,
oui.
Dans lequel il essaie de comprendre pourquoi l'antisémitisme, ça lui a valu d'être pour certains pris pour un antisémite, pour d'autres pour un procès mythe. Mais il a essayé de comprendre. Il s'est levé à plusieurs reprises face à Drummond. C'est quelqu'un de courageux qui utilisait sa plume pour essayer de comprendre l'antisémite en face. Et il se battait pour des valeurs. Et en particulier, il voulait que l'émancipation du juif partout dans le monde. En France, le juif avait des droits, dans d'autres pays, en particulier en Europe de l'Est, il n'en avait pas autant. Et il s'est levé et il a cru à un horizon plus libre pour les juifs, mais pas que, pour les arméniens et pour tous les persécutés du monde.
Alors justement, il était aussi un des précurseurs du mouvement sioniste.
Il a été un précurseur du mouvement sioniste. Encore une fois, il est éclipsé, et en particulier le sionisme français. Mais un sionisme qui est différent de celui qu'on évoque généralement. C'est l'émancipation du citoyen, c'est l'émancipation de l'homme et des femmes. Bernard Lazare... Il voulait qu'on vive libre. Il ne parlait pas d'État. C'était un anticapitaliste, anarchiste. Il n'était pas en accord avec le chemin qu'a pris Herzl. Et notamment aussi de discuter avec le sultan rouge, par exemple. C'est pas quelqu'un qui, il parle pas avec les gens qui ne veulent pas de la liberté des personnes.
Et puis il y a la ville de Nîmes où Lazare Bernhardt est né, puisque son patronyme a été inversé. Il est le fils donc d'un judéo-contindin et d'une famille industrielle de Nîmes. Comment la ville de Nîmes a réagi à votre initiative d'inauguration d'un nouveau monument en son honneur?
elle a réagi en nous permettant d'inaugurer la statue. Comme partout en France et à Nîmes également, ça a été un bonheur de convaincre et d'expliquer les raisons de ce travail d'érection de statue qui est important, essentiel, comme je le dis, puisque Bernard Lazare, en retrouvant le Jardin de la Fontaine, d'une certaine manière, et vu tous les efforts aussi qu'on a réalisés pour ça, on le met sur un piédestal, celui de la lutte et de la lutte pour la mémoire de cette grande figure et pour l'histoire également du judaïsme français. Et notamment, je tiens à saluer les soutiens et en particulier financiers de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation du judaïsme français qui nous ont beaucoup aidés, et également la ville de Paris, puisque Bernard Lazare est né à Nîmes et il est aujourd'hui enterré à Paris, où il y a fait toute sa carrière littéraire, journalistique. Et voilà, je tiens à le saluer aussi.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, en compagnie de David Storper, qui nous parle de l'inauguration du monument dédié à Bernard Lazare à Nîmes. Est-ce que, finalement, cet événement ne tombe pas à pic? Vu le contexte que nous traversons, parfois, on dénie aux Juifs une certaine inscription dans la citoyenneté française, et en fait, des personnages comme Bernard Lazare démontrent que l'histoire de Juifs peut être totalement lié à l'histoire de la France.
Absolument. Et il y a de nombreuses figures à Nîmes de cette histoire. Je pense aux Crémieux, je pense à de nombreux Crémieux. De nombreux Crémieux. Il y a eu Gaston Crémieux, il y a eu Adolphe Crémieux, il y a eu Suzanne Crémieux. On a cette particulière à Nîmes de personnalités importantes qui ont mené le combat pour la République.
Il avait un côté, alors peut-être que subversif est un peu trop, mais il aimait empêcher de penser en rond, il était un petit peu dérangeant. Est-ce que sa personnalité peut parler à la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce que les jeunes sont intéressés au dévoilement d'un monument dédié à Bernard Lazare?
Alors, je suis intervenu avec plusieurs classes d'élèves et ils sont tous... Ils ont tous hâte de voir ce monument. On intervient sur un jardin qui est pour, en tout cas, les Nîmois, un jardin d'importance au fond du cœur. Et ils n'ont jamais vu de leur vie la mise en place d'une nouvelle statue. Et je crois que ça sera un bonheur. Et les enfants comme les adultes vont découvrir, et du coup c'était la meilleure manière de leur expliquer qu'il y avait une statue, en fait, en reconstruisant la statue avec eux, parce que on les a fait participer tout au long de notre aventure. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille, on a fait des conférences avec Philippe Auriol où ils ont intervenu, ils ont construit un film. On a même fait reparler Bernard Lazare, parce qu'aujourd'hui on est en 2025, on n'est pas en 1865. Donc, on a voulu faire un projet de 2025, avec aussi la possibilité de voir le monument avant même qu'il soit construit, avec des lunettes 3D. On a cherché toutes ces formes qui sont aujourd'hui d'actualité pour redonner vie à cet homme qui est mort il y a maintenant plus de 120 ans.
Alors, il y a eu ces événements, il y aura la cérémonie prochainement. On invite évidemment le plus large nombre de personnes à y assister. Mais est-ce que ce sera un aboutissement, ou est-ce que ce sera le début d'un travail plus large autour de Bernard Lazare?
Alors, pour l'association dont je préside, l'association collective Histoire et Mémoire, ça sera un aboutissement. Ça sera la fin d'un projet. Pour l'ensemble des associations que nous avons su regrouper autour de ce projet, les collectivités territoriales qui nous ont amené leur soutien, les villes de Nîmes et de Paris, et l'ensemble des fondations entreprises et citoyens, qui, parce qu'on a fait on a voulu une mobilisation citoyenne, les gens ont donné de l'argent pour que cette statue revienne. C'est maintenant à eux de porter le flambeau, comme Bernard Lazare a porté le flambeau sur l'affaire Dreyfus, comme moi j'ai porté le flambeau sur la statue de Bernard Lazare. Maintenant c'est à nos historiens, mais pas que, de dire que le premier défenseur du capitaine Dreyfus, c'est Bernard Lazare.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à celles et ceux qui vont passer devant ce monument et qui peut-être, et même sans doute, ne le connaissent pas? Qu'est-ce que vous aimeriez ou vous souhaiteriez qu'ils ressentent?
Un monument, c'est un tas de pierres. Maintenant, ce que j'aimerais qu'ils ressentent, c'est... Et je pense qu'ils le ressentiront au vu de... Voilà, on a fait des efforts considérables, monumentaux, pour reconstruire un monument. Déjà, savoir que ça a été très compliqué pour refaire et qu'on y arrivait. Et de deux, ça permettra de connaître mieux l'histoire de l'affaire Dreyfus, l'histoire de Bernard Lazare et l'histoire sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est quand même la nature de l'association Collectif Histoire et Mémoire.
Le monument sera exactement à l'identique. À qui a-t-il été confié pour le refaire? Est-ce qu'on avait des photos, sans doute, hein, de la manière dont il était avant?
Alors, le monument a été reconstruit à partir des archives qu'on avait du monument. Pourquoi? À l'époque, il avait eu un certain intérêt, ce monument, en particulier dans le monde juif. Et il y avait des cartes postales, beaucoup, à cette époque-là. On a trouvé de nombreuses cartes postales qui sont disponibles aux archives du MAJ et autres. On a fait appel à un atelier de sculpture dans le Gard qui s'appelle l'atelier Bouvier et qui est nationalement connu pour avoir notamment travaillé sur la restauration de Notre-Dame de Paris et qui travaille sur de nombreux chantiers partout en France pour défendre du coup le patrimoine et la conservation de ce patrimoine. Et on était très fiers de travailler du coup avec un atelier proche de Nîmes et ce qui est très beau, c'est que l'ensemble des sculpteurs ont pris part à ce travail, mais même de façon intellectuelle, puisqu'ils se sont renseignés sur l'homme et qu'ils en ont fait un étendard. Même eux ont compris le sens du projet, un sens essentiel. Ils ne connaissaient pas l'homme au départ et aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de chercher à me donner toutes les facettes de l'homme pour que je puisse faire un super discours dans une semaine.
Alors justement, hein, ce sera le dimanche 14 décembre, en fin de matinée, au Jardin de la Fontaine à Nîmes. Comment va se passer la cérémonie? Est-ce que vous savez déjà?
Alors, je vais pas dévoiler le déroulé de la cérémonie. On souhaite quelque chose de concorde nationale. Voilà, quelque chose qui amène de la paix, de la sérénité dans ce beau Jardin de la Fontaine, mais aussi une vérité, celle de l'histoire, celle de la mémoire.
Il y a une question traditionnelle pour conclure cette émission, mais néanmoins difficile. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom, eh bien, de prendre un billet de train quand ils habitent à Paris ou simplement se déplacer à pied quand ils sont du côté de Nîmes pour assister à cette cérémonie, qu'est-ce que vous leur diriez?
Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Et ce rendez-vous, il est à Nîmes, le dimanche 14 décembre 2025 à midi. Donc je vous conseille de prendre un billet de train.
Merci beaucoup David Storper pour cet éclairage précieux sur une figure essentielle, trop souvent méconnue de notre histoire, et que vous contribuez à remettre dans la lumière. Et à travers ce monument, vous ne figez pas Bernard Lazare dans le bronze, vous le rendez à nouveau vivant dans le débat public. Merci infiniment. On rappelle donc que la cérémonie aura lieu le dimanche 14 décembre 2025 à midi, hein, c'est bien ça ?
C'est bien ça, merci Sandrine, merci aux auditeurs de Radio Shalom.
Au Jardin de la Fontaine, on dit.
Au Jardin de la Fontaine, à Nîmes.
On le trouve facilement, ce Jardin de la Fontaine ?
C'est le plus grand jardin de la ville, vous demandez à n'importe quel Nîmois, ils vous y mèneront.
Merci beaucoup et à très bientôt.